France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En février 1967, les électeurs français s'apprêtent à désigner leurs députés pour les législatives du mois de mars. Charles de Gaulle est président de la République. Le pays n'a pas encore été secoué par les événements de mai 68 et la majorité au pouvoir jouit d'une avance confortable en siège au Parlement. Les débats politiques, pourtant, sont très énergiques entre les forces politiques en présence à cette époque. Deux ans plus tôt, en 1965, la gauche, emmenée par François Mitterrand, a réuni près de 45% des suffrages à l'élection présidentielle, très loin de la déroute qui avait été annoncée. La période est propice aux grandes joutes et aux grands débats sur le rôle du chef de l'État, sur l'organisation des pouvoirs et sur le rôle du Parlement dans la République. C'est l'un de ces débats, dans un style particulièrement énergique, que vous allez entendre dans cette archive. Nous sommes le 27 février 1967, donc, à Grenoble. Le Premier ministre, Georges Pompidou, et l'ancien président du Conseil de la 4e République, Pierre Mendès-France, sont les deux orateurs de cette soirée de confrontation électorale devant quelques 6000 personnes.
Monsieur Pompidou, Monsieur Mendès-France, à Grenoble, cette nuit. Un débat loyal entre deux hommes qui se sont progressivement élevés au cours de la nuit, au-dessus des querelles de parti, des querelles de chiffres, pour définir chacun ce qu'il y a de plus noble chez l'homme politique, sa conception de l'État. Écoutez-les parler du rôle du chef de l'État, avec leur tempérament politique différent, mais tous deux d'une grande noblesse. Monsieur Pierre Mendès-France.
Même si le président de la République est élu au suffrage universel, le peuple a le droit de changer d'avis et de juger que des erreurs ont été faites et qu'une autre politique doit être suivie. Le président, le peuple souverain a le droit de demander au président de la République d'appeler un nouveau gouvernement pour faire une nouvelle politique.
Monsieur Georges Pompidou, à son tour, parle du rôle du chef de l'État en cas de changement de majorité.
Je suis sûr que l'homme, et vous étiez à ses côtés en effet, de façon particulièrement remarquable, je le reconnais, que l'homme qui nous a rendu la liberté et la République en 1944, que l'homme qui depuis 1958 nous a sauvé deux fois et peut-être trois de la dictature militaire, cet homme, une fois encore, respectera la liberté des Français en même temps que la grandeur de la France. J'en suis sûr, Monsieur Mendès-France. Et si c'est cela, être un mauvais citoyen, eh bien je préfère être ce citoyen-là que de partir du principe qu'un homme à qui la France doit tant pourrait manquer à son devoir, ce qu'il n'a jamais fait.
Si j'ai voulu vous faire entendre ces deux phrases, c'est pour bien situer à quelle hauteur s'est situé ce débat entre deux hommes différents, mais de stature exceptionnelle, ces deux hommes d'État face à face, hier à Grenoble. Et maintenant, Jean-Pierre Elkabbach, qui a assuré cette nuit le reportage en direct sur nos antennes, vous en fait le compte-rendu détaillé.
Les Grenoblois, et évidemment pas seulement les Grenoblois, conserveront un souvenir particulier de la confrontation majorité-opposition qu'ils ont suivi avec un intérêt passionné dans et à la porte de la patinoire de Grenoble. Ils soulignent à leur manière le renouveau d'intérêt, reconnu dans de nombreuses villes de France d'ailleurs, pour les affaires politiques. Et c'est un phénomène intéressant dans une région où la dépolitisation est sensible. Monsieur Pompidou, venu soutenir les deux candidats 5e République de Grenoble, messieurs Jean Vanier et Aimé Paquet, avait accepté de recevoir monsieur Pierre Mendès-France et de débattre avec lui devant un très large auditoire des principaux problèmes intérieurs et internationaux d'une veillée électorale qui autorise toutes les flèches personnelles.
Vous êtes resté, et je le regrette, un homme du régime de la 3e République finissante et de la 4e République. Vous m'avez dit que j'étais un homme de la 3e ou de la 4e République. J'avais l'impression que vous étiez un homme du Second Empire.
Dans des interventions de caractère, disons régional, messieurs Jean Vanier et Aimé Paquet attaquaient durement à la fois M. Mendès-France et M. Gillard, le candidat communiste, qui se trouvait d'ailleurs dans la salle avec une cinquantaine d'amis, décidés à se faire entendre. En réalité, les organisateurs placèrent rapidement cet ancien ouvrier maçon, jeune et dynamique, au premier rang des invités, et lui demandaient d'intervenir. Monsieur Mendès France préféra répondre aux adversaires de son arrondissement au cours de prochaines réunions d'école ou de mairie. La véritable confrontation Pompidou-Mendès France, souhaitée par l'ancien président du Conseil et acceptée par le chef de la majorité 5e République, allait durer 2 bonnes heures et permettre 2 interventions de M. Mendès France et 3 de M. Pompidou, telle est la loi des réunions électorales. Le duel prenait une tournure particulièrement acerbe aux environs de minuit, M. Mendès France reprochant une nouvelle fois au chef de l'État d'intervenir quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote.
Un discours fixé à samedi soir, dans un moment où personne n'aura plus la possibilité de répondre, j'ai bien le droit d'affirmer qu'il est contraire aux règles normales d'un débat démocratique et qu'il constitue à la fois une pression inadmissible sur le corps électoral et un défi que le pays devra relever.
Je trouve normal que le chef de l'État, ayant les responsabilités qu'il assume et les pouvoirs qu'il détient, ne laisse pas passer une grande consultation électorale sans donner son opinion au pays. Je trouve normal qu'il ne le fasse pas dans le cadre de la campagne électorale et en se plaçant sur le même plan que les chefs des différents mouvements, y compris moi-même, car il est à un autre poste, il a d'autres responsabilités et il est probable qu'il prendra un autre ton.
Les différentes conceptions de l'évolution et du rôle du chef de l'État, du fonctionnement et des rapports des pouvoirs publics, de la nature et de l'évolution du régime servaient de cadre au face-à-face de 2 interlocuteurs de taille que les supporters, sous le charme, oubliaient parfois d'encourager au bon moment.
Que ferez-vous le mois prochain si vous perdez la majorité? Que ferez-vous le mois prochain si une majorité de gauche est envoyée au Parlement? Le peuple français a le droit de se préoccuper de savoir ce que signifie le scrutin auquel il va procéder dimanche prochain.
Comme Premier ministre, figurez-vous, je n'ai pas d'opinion là-dessus, puisque ce n'est pas mon affaire. C'est celle du chef de l'État. Dans la Constitution de la Ve République, la majorité n'exerce pas le pouvoir, elle le contrôle. Elle n'a pas à le former. Et si on le forme, ce gouvernement, à partir de nos divisions, y compris de vos divisions de gauche, soyez certains que vous retrouverez l'impuissance, cette impuissance dont vous avez été peut-être la victime la plus remarquable.
Eh bien, c'est là notre désaccord fondamental. Même si le président de la République est élu au suffrage universel, le peuple a le droit de changer d'avis et de juger que des erreurs ont été faites et qu'une autre politique doit être suivie. Le peuple souverain a le droit de demander au président de la République d'appeler un nouveau gouvernement pour faire une nouvelle politique. Aujourd'hui, il est un chef de parti. Aujourd'hui, il est un homme politique. Et il n'a plus le droit d'exercer dans les mêmes conditions cette autorité inconditionnelle qu'il impose à un certain nombre de ses collaborateurs. Appelé à être toujours et en toutes circonstances, paraît-il, d'accord avec lui, alors qu'ils sont incapables de savoir d'avance ce qu'il décidera. Cela est contraire à la vérité démocratique, cela est contraire à la dignité de l'électeur, et j'appelle les républicains, les démocrates et les socialistes de ce pays à montrer clairement dimanche prochain qu'ils ont choisi la liberté et qu'ils la feront prévaloir.
Je crois que ce que j'ai la question posée par M. Mendès-France, la réponse que je lui ai donnée et la réponse qu'il m'a faite situent parfaitement le problème. Il y a indiscutablement deux conceptions. Dans celle de M. Mendès-France, quoi qu'il en pense ou quoi qu'il en dise, le président de la République, même élu au suffrage universel, est réduit au rôle de spectateur, tout au plus d'arbitre, au sens où bien des fois l'a dit M. Guimollet, chargé de siffler les hors-jeux et de compter les coups. Mais notre lutte politique, c'est une chose, et la direction de la France en est une autre. Ça n'est plus un match où l'on se bat, c'est une équipe qui doit combattre groupée. Ce n'est pas de l'arbitre que nous avons besoin, c'est d'un capitaine.
Vive de mort !
Mais ce capitaine... Mais ce capitaine n'a nul besoin d'être un monarque. Ce capitaine est le président de la République, tel qu'il est, tel qu'il a été choisi par le peuple. Et je n'ai pas encore entendu une seule fois dans la bouche de M. Mendès-France la moindre constatation que l'élection de décembre 1965 pouvait avoir une signification politique. Je n'ai pas entendu dire que ce jour-là, 55% de Français avaient donné leur confiance au général de Gaulle. Je n'ai pas entendu dire, par conséquent, que cela avait un sens politique, que c'était un geste politique, et qu'avant de dire qu'on était revenu sur ce geste, il fallait qu'on en eût la preuve, et la preuve formelle. Et ce n'est pas parce que nous aurions, dans la prochaine Assemblée, des groupes dont nous ne savons pas ce qu'ils seraient, dont nous ne savons pas comment ils se regrouperaient, dont nous sommes simplement sûrs qu'ils se diviseraient et se battraient, ce n'est pas dans l'aveuglement de cette réunion que nous pourrions dire « Le peuple a renversé sa position, le peuple ne veut plus de la politique du général de Gaulle ». Que l'Assemblée en fasse la preuve, que la majorité renverse le gouvernement, et après on verra. Le général de Gaulle est chef de l'État, et il fait son devoir, et on n'a jamais vu demander à un chef de l'État ce qu'il fera dans telle ou telle hypothèse. Après telle ou telle élection, attendons les résultats, attendons le jugement du peuple, et on verra bien alors ce qu'il y a à faire, et il verra bien ce qu'il a à faire.
En dépit de l'âpreté, de la rapidité, de la netteté des échanges, la loyauté et la courtoisie ont prévalu hier soir de chaque côté, pourtant bien décidé à ne rien laisser dans l'ombre, à ne faire aucun cadeau. M. Mendès-France a reconnu lui-même à 2h du matin, au cours de sa conférence de presse, l'aspect nouveau d'une telle réunion électorale qui en inspirera probablement d'autres, lors des prochaines consultations populaires.
La soirée n'a pas été très dure. Évidemment, la salle était un peu turbulente par moments, dans les deux sens d'ailleurs. L'ensemble de la soirée s'est passé dans des conditions correctes. Je me réjouis que tous les orateurs, même s'il y a eu des mouvements divers par moments, aient vraiment pu dire ce qu'ils avaient à dire complètement, aussi bien M. Pompidou que moi. En ce sens, c'était un bon débat.
C'était Georges Pompidou et Pierre Mendès-France dans Interactualité par Roland Mel, le 28 février 1967. Vous pouvez réécouter cette séquence sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.